Bien, alors, Karl Barth était un homme qui a surtout voulu réagir contre l'école libérale, ou plutôt dépasser la querelle qui était alors historique entre libéraux et orthodoxes. Il ne s'agissait pas pour lui de nier les apports, enfin, les apports entre guillemets, de la critique libérale, mais il s'agissait de les dépasser. Finalement, le libéralisme avait pratiquement conduit à une perte de la foi dans l'inspiration et dans l'autorité de l'écriture. Et Barth, précisément, s'est attaqué à la doctrine de l'écriture. Et là où l'orthodoxie disait avec la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, donc la Bible est la parole de Dieu, toute la Bible. Là où le libéralisme disait non, toute écriture n'est pas inspirée de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des paroles qui sont paroles de Dieu, et c'est précisément l'œuvre de la théologie de définir qu'est-ce qui dans la Bible est parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. Barth avait pris acte du fait que les théologiens ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur ce qui était parole de Dieu et ce qui ne l'était pas, et s'est dit, eh bien, on tourne en rond dans ce débat. On ne peut pas, d'une manière claire, définir ce qui est parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. On ne peut plus, à moins d'être fondamentaliste, bête, étroit et borné, croire que la Bible tout entière est parole de Dieu. Alors il y a une troisième voie. Et la doctrine de l'écriture sainte, de l'écriture sainte chez Barth se résume d'une manière un peu caricaturale par cette expression « la Bible devient la parole de Dieu ». C'est-à-dire que Barth croyait, comme tout chrétien devrait le faire, à l'Esprit Saint, et Barth disait, lorsque la parole de Dieu est prêchée, lorsque le Saint-Esprit, enfin lorsque la Bible est prêchée plus exactement, lorsque le Saint-Esprit soudain me parle au travers de cette écriture-là, cette parole devient pour moi parole de Dieu. Et à ce moment-là, peu importe que cette parole soit authentique ou pas, peu importe qu'elle soit historique ou qu'elle ne le soit pas, du moment qu'elle m'a parlé, c'est que Dieu a utilisé cette parole pour me parler à moi. Par exemple, il prenait un cas, il dit, je sais bien que le serpent n'a pas parlé à Ève, parce qu'on n'a jamais vu un serpent parler à quelqu'un. Mais ça m'importe peu de savoir que le serpent n'a pas parlé à Ève. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu me dit par l'image de ce serpent, par ce mythe du serpent qui parle à Ève. Alors on voit bien entendu ce qui, dans une optique évangélique, est inacceptable dans cette position de Barth. Parce que finalement, si Dieu me parle par un mensonge, comment est-ce que je peux tenir la parole qu'il me dit pour vérité ? Ça. Mais il est certain que par rapport à la doctrine libérale, il y avait tout de même un certain progrès. Et c'est sur cette base-là que de nombreux chrétiens à la fin du siècle dernier, enfin au début du siècle essentiellement, on retrouvait une certaine dimension de foi. Et je crois que peu ou prou, c'est la doctrine de l'inspiration de l'Écriture que nous trouvons chez la majorité des pasteurs de l'Église réformée aujourd'hui. C'est par exemple la doctrine d'inspiration d'écriture que vous trouvez chez un homme comme Jacques Ellul. Bon. Quelque admiration qu'on puisse avoir pour lui sur bien des plans, il est certain que sur ce terrain-là, nous ne suivons pas. Seulement, ces gens-là peuvent à ce moment-là tout de même parler comme si l'écriture était pour eux parole de Dieu. Et au niveau en particulier du peuple, eh bien, il est certain que c'était des gens qui étaient moins dangereux, qui faisaient moins de dégâts que les libéraux du passé. Alors, Barthes a eu malheureusement un certain nombre d'autres développements. Il a écrit une monumentale dogmatique en plusieurs volumes de la taille du Grand Larousse. Il passe en revue tous les différents points de doctrine que nous avons évoqués rapidement quand nous avons abordé l'étude de la doctrine et sur lesquels nous allons revenir. Bien entendu, la dogmatique de Barthes, laquelle est extrêmement difficile à suivre, n'est pas exemple d'hérésie, loin s'en faut. Barthes réagissait dans sa théologie, par exemple, très fort contre la notion de révélation naturelle. Pour lui, Dieu ne pouvait se connaître que par l'Écriture. Et il était impossible de découvrir Dieu dans la nature. Il réagissait notamment contre le catholicisme à ce niveau-là, mais peut-être pourrait-on trouver que là aussi il allait trop loin. Paul dit qu'il existe une certaine révélation de Dieu dans la nature, dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, la pensée de l'éternité, et le nier est excessif, bien entendu. Barthes voulait aussi séparer deux types d'exégèse. Et vous trouvez ça chez Jacques Ellul en particulier, qui est un disciple de Barthes sur ce point. Quand vous lisez la parole de Millier, c'est très clair. N'est-ce pas ? D'une part, ce qui est historique et ce qui est théologique. Ce qui est vérité historique et ce qui est vérité théologique. Et comme Barthes était un homme qui était de culture allemande, s'exprime en allemand, il employait pour cela deux mots allemands dont il n'y a pas d'équivalent français. C'est le mot historischisch, quelque chose comme ça, et geschichtlich. Ça veut dire historique dans les deux cas, mais si vous voulez, il y a une nuance. Et vous trouvez chez Jacques Ellul en particulier cette nuance qui est faite au niveau de ce qu'il appelle la vérité, de ce qu'il appelle la réalité. C'est-à-dire, il y a une vérité qui est immédiate, qui est terrestre. La vérité historique, par exemple. Et la parole de Dieu peut ne pas être vraie à ce niveau-là, dit Barthes. Mais par contre, elle est toujours vraie au niveau de ce qui est du domaine de la vérité révélée. Et par conséquent, à ce niveau-là, elle est inattaquable. Évidemment, on peut faire la même critique que celle que nous faisions tout à l'heure. Comment croire que le Dieu qui aurait gardé une vérité uniquement relative à l'autre monde, n'est-ce pas, n'aurait pas fait en sorte aussi que la vérité tout court, eh bien, soit préservée. Ce serait à ce moment-là, il se comporterait d'une manière inverse, opposée à ce qu'il exige de nous, ce qu'il exige de ses créatures, à savoir qu'il fallait toujours vrai. Non seulement dans les choses célestes, mais également dans les choses terrestres. Les choses quotidiennes de la vie nous fait le devoir d'être vrai. Alors comment Dieu ne l'aurait-il pas, lui qui a exigé ces choses de nous, comment ne le serait-il pas non plus ? Alors, ensuite, Barthes avait un autre point théologique très fort, et où il a eu quand même un certain mérite de souligner, d'abord une théologie du Saint-Esprit qui avait été pratiquement oubliée, et qui, quand même, permet aujourd'hui à un certain nombre de Barthiens d'entrer dans une vision charismatique. Lui-même n'était pas charismatique, Barthes, bien entendu. Mais il avait tout de même une théologie du Saint-Esprit nettement plus élaborée que ce qu'on trouvait jusqu'ici dans la théologie protestante. Troisièmement, Il avait une théologie aussi de l'histoire. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'était une perspective qui avait été perdue de vue par bien des théologiens, mis à part Schweitzer. Albert Schweitzer, le célèbre médecin de Lambaréné, qui était aussi théologien. Et Schweitzer avait découvert ou redécouvert que l'essentiel de la prédication de Jésus, c'était la prédication du royaume de Dieu. C'est-à-dire une réalité d'espérance, d'une réalité à venir. Seulement, Schweitzer, lui, qui était un libéral, affirmait que Jésus attendait le royaume messianique, que ce royaume n'était pas venu, que par conséquent, à ce niveau-là, Jésus s'était trompé, et que prêcher aujourd'hui l'évangile aux hommes de ce temps, c'était non plus leur annoncer cette espérance qui était utopique, n'est-ce pas, mais les amener à prendre conscience des vérités religieuses qui étaient en eux. Vous voyez, évidemment, comme c'était enthousiasmant, emballant, pour ceux qui écoutaient ce type de prédication-là. Quoi. Alors, Barthes lui a réagi contre la théologie de Schweitzer à ce niveau-là, et il a réinterprété ce que les théologiens appellent l'eschatologie, c'est-à-dire justement la vision des fins dernières, les choses dernières, eschata en grec, les choses dernières. Et notamment, il les a dépouillées de tout caractère temporel. Dans ce sens que, pour lui, effectivement, lorsque la Bible annonçait un royaume terrestre, etc., millénaire, par conséquent, il s'était parfaitement trompé, c'est un fait. Mais ça ne porterait en rien préjudice à la prédication de Jésus, parce que ça, c'était du domaine, encore une fois, de l'humain, de l'historique. Et à ce niveau-là, Jésus pouvait se tromper. À ce niveau-là, Jésus pouvait partager les erreurs de son temps. Voilà ce que dit Barthes. Ça est inacceptable, bien sûr. Et c'est ce qu'il a tenu. Par contre, n'est-ce pas, Barthes privilégiait dans ce domaine un certain nombre de textes, notamment les textes de l'Évangile de Luc, où il est question de l'aujourd'hui du salut. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, disait Jésus à Zachée, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, Jésus aux habitants de Nazareth dans la synagogue, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Et en face, dit Barthes, de cet aujourd'hui du royaume de Dieu qui nous atteint en Jésus-Christ, l'homme doit répondre par une décision. Et finalement, pour lui, l'eschatologie, c'était la décision à cet aujourd'hui de Dieu, cette irruption de l'aujourd'hui du royaume de Dieu dans notre vie. C'était certainement pas faux, bien sûr. C'est vrai qu'il y a de cela. Mais c'est par rapport au message biblique, évidemment, très très insuffisant. Car s'il est vrai qu'il y a cette interpellation qui exige une décision, d'une certaine manière, se faisant Barthes redécouvrir la conversion, même s'il ne l'appelait pas par ce nom-là, c'est en cela aussi que ce qu'il pouvait faire était positif. Mais réduire uniquement le message du salut de Jésus-Christ à cela, c'était évidemment extrêmement restreint, le message de l'Évangile. D'autant que finalement, cette décision n'était pas une décision pour le salut, mais uniquement pour suivre Jésus-Christ. On dira, bon, évidemment, la nuance n'est pas tellement grande. Mais dans la mesure où pour Barthes tout le monde était sauvé, ce n'était pas une décision pour le salut quand même. Si bien que ça pouvait laisser indifférent un certain nombre de gens. Il disait, après tout, puisque je suis sauvé, c'est pas la peine que je me casse la tête, et puis que je renonce à moi-même, que je me charge de ma croix pour suivre Jésus. C'était bien entendu ce que pouvait se dire un certain nombre de gens qui pouvaient entendre la prédication du pape. Alors, il y a eu ensuite le post-baptisme, notamment avec Gutmann. Il y a des gens qui se sont opposés à Barthes, comme c'est toujours le cas dans pareilles circonstances. Et puis il y a aussi les disciples de Barthes qui ont continué sur le travail que ce dernier avait commencé, dans les pistes qu'il avait ouvertes. Et l'un des disciples les plus intéressants de Barthes, je crois, un des théologiens sur lesquels il est intéressant de s'arrêter plus longtemps, ce que nous avons fait, parce qu'il est peut-être un des seuls qui soit vraiment, il y a vraiment des choses à dire dans une vision vraiment biblique, c'est Oscar Kuhlmann, professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, qui, lui, alors, a repris cette vision, a travaillé beaucoup, en tout cas, sur plusieurs points qui sont extrêmement intéressants. Le premier, sur, précisément, l'eschatologie. L'évangile dans le temps, c'est-à-dire une théologie de l'histoire. Deuxièmement, parce que, précisément, Kuhlmann se situait dans, si vous voulez, la mouvance du mouvement œcuménique qui venait de naître au début de ce siècle, et par conséquent se trouvait confronté avec le catholicisme, Kuhlmann a repris un certain nombre de points controversés entre catholiques et protestants, notamment sur deux plans. Premièrement, sur le problème de la primauté de Pierre, et deuxièmement, sur le problème de la tradition. Justement, cette semaine, mardi, nous avions un échange extrêmement véhément avec les catholiques sur le sujet de la tradition. Précisément, la théologie de Kuhlmann, à ce niveau-là, était tout à fait intéressante. Alors, nous allons voir, si vous voulez, successivement, chacun de ces trois points chez Kuhlmann, parce que Kuhlmann, là, a fait une approche extrêmement pertinente et, à mon avis, une des plus exactes qui ait jamais été faite sur ces trois points, sur ces trois sujets. Premièrement, sur ce qui concerne la théologie de l'histoire. Kuhlmann a résumé ses thèses à ce niveau-là dans un ouvrage qui s'appelle « Jésus et le temps ». Et le temps. Le temps qui passe. Après lui, d'ailleurs, quelques-uns de ses disciples ont repris aussi ce travail, y compris en milieu évangélique, et en milieu évangélique, le professeur André Lamorte a repris ce thème du temps, n'est-ce pas, notamment à partir de l'Ancien Testament. Mais donc, que nous dit Kuhlmann au sujet du temps? Il nous dit que précisément, le christianisme tourne en rond depuis des siècles, parce qu'il a oublié que la vision biblique était une théologie de l'histoire. Le salut était une histoire. Et lui, donc, a repris cette notion de l'histoire du salut. C'est-à-dire un salut qui s'inscrit dans le temps, dans un processus historique, un déroulement historique. Et Kuhlmann disait, le débat est faussé dans le christianisme, depuis l'hellénisation du christianisme en particulier, parce que la notion du temps, qui est celle des théologiens jusqu'à aujourd'hui, c'est la notion philosophique grecque du temps, qui est héritée de Platon en particulier. Et le temps est considéré comme un système clos, sans rapport avec l'éternité chez Platon. Dans ce sens que l'éternité appartient à une autre réalité que celle du temps. Et seule la mort permet de quitter le temps pour entrer dans l'éternité. Et ce faisant, le temps est un système clos. Donc, c'est en même temps une réalité cyclique qui ramène les mêmes événements constamment. Et c'est les grands mythes païens qu'on trouve par exemple chez Virgile, qu'on trouve chez Lucrèce et des auteurs classiques, sceptiques, n'est-ce pas, où il y a constamment ce mythe de l'éternel retour des choses. Et par conséquent, ce temps-là n'a pas de sens, n'a pas de signification. Mais nous dit Kuhlmann, la vision biblique ne voit pas du tout les choses de la même manière. Le temps et l'éternité, dans la vision biblique, ne sont en aucune manière séparés. Mais l'éternité, c'est le temps multiplié à l'infini. Et Kuhlmann disait, on peut représenter le temps sous la forme d'une ligne, fin, avec un commencement et une fin. Et si nous prolongeons cette ligne à partir de son commencement dans le sens négatif, à l'infini, et si nous la prolongeons ensuite dans son sens positif à l'infini, nous avons une représentation de l'éternité. Alors, ça peut nous paraître évident, mais il a fallu Kuhlmann pour dire ça. Depuis 2000 ans, les théologiens, n'est-ce pas, se mouvaient dans un autre univers à ce niveau-là. Maintenant, dit Kuhlmann, ce temps est aussi orienté, dans ce sens qu'il est conduit par Dieu vers un but. Et précisément, l'incarnation, c'est Dieu qui entre dans le temps. Mais cette incarnation se fait aussi par étapes. Il y a d'abord l'expression d'une parole, qui est une manière déjà de Dieu de s'insérer dans le temps. Et donc, non pas de venir coller à une autre réalité, parce que finalement l'éternité de Dieu, Dieu est éternel dans ce sens qu'il vit notre temps, mais il le vit à l'infini. Et dès lors, n'est-ce pas, il y a d'abord l'insertion d'une parole, d'une promesse, et c'est toute la révélation prophétique, jusqu'à ce qu'apparaisse le sommet du temps, la plénitude du temps. Il reprend l'expression de Paul, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils dans le monde né d'une femme. Et Kuhlmann nous dit, l'incarnation de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus sont le sommet de la ligne du temps. Alors, il fait une différence entre la vision biblique, la vision de l'Ancien Testament du temps, qui est une ligne continue, avec un commencement, avec une fin, et au-delà, négatif et positif, l'éternité. Et puis la vision du Nouveau Testament. Le temps dans le Nouveau Testament est séparé en deux. Entre ce commencement et cette fin, il y a Jésus-Christ. Il y a l'incarnation, il y a la mort, et il y a la résurrection de Jésus-Christ. Et ceci sépare la ligne du temps en deux parties inégales. La première, c'est le temps de la promesse, où Dieu annonce les événements futurs, donc le temps prophétique, et où chaque événement, nous dit Kuhlmann, porte en gêne celui qui le suit, parce que tout est conduit par Dieu, d'où justement la notion d'histoire du salut. Et ce faisant, Kuhlmann s'oppose à Bultmann, pour lequel le temps est finalement un mythe. Et au-delà, donc, du temps, nous entrons, dans le au-delà de la mort de Christ, sa mort et sa résurrection, nous entrons dans une autre période que Kuhlmann appelle l'époque avant-dernière, en attendant la fin, qui est cette fois-ci le temps de l'accomplissement. Et nous avons donc avec Kuhlmann une théologie vraiment christocentrique, où l'incarnation apparaît comme le fait central. Et à l'inverse de ce qui se passe chez Barthes, on n'atteint pas la vérité par le subjectivisme, mais par une expérience identique à celle des premiers chrétiens. Et c'est en cela que Kuhlmann est tout à fait intéressant. Pour Kuhlmann, au contraire, l'histoire est un mythe, et qui nous amène simplement à considérer notre vie d'une façon nouvelle. Kuhlmann, au contraire, affirme qu'il y a là une réalité objective. Bien que, bien entendu, Kuhlmann, comme beaucoup de théologiens, ne nie pas qu'il y ait des mythes dans la vie. Mais Kuhlmann n'essaie pas d'évacuer le scandale de la foi, le fait que, finalement, la parole de Dieu heurte notre intelligence, notre compréhension, notre vision des choses. Alors, ce faisant, Kuhlmann laisse la porte ouverte à une véritable eschatologie, c'est-à-dire la manifestation d'un royaume de Dieu qui est encore à venir. Puisque cette période n'est que la période avant-dernière, mais qu'il y aura une période dernière. Et alors, Kuhlmann fait la différence entre le déjà et le pas encore. Le propre de la période avant-dernière dans laquelle nous sommes, c'est que c'est la période du déjà, dans ce sens que déjà en Jésus-Christ, toutes les réalités du royaume nous sont données. Déjà, le salut nous est donné aujourd'hui. Déjà, le royaume de Dieu a fait irruption au milieu des hommes. Déjà, le prince de ce monde est jugé et jeté dehors. Satan est vaincu. Déjà, tout est accompli. Mais en même temps, tout cela n'est accompli qu'en espérance. Et en même temps que le déjà, il y a le pas encore. Nous sommes sauvés, oui. Mais nous sommes encore sous l'emprise du péché. Nous sommes encore sous l'emprise de la mort. Nous sommes encore sous l'emprise des conséquences du péché et du mal. Satan règne encore, bien qu'il soit déjà jugé et jeté dehors. Et par conséquent, la vie du chrétien, nous dit Kuhlmann, c'est une tension permanente entre ce déjà et ce pas encore, qui est le propre, la caractéristique de cette période avant-dernière. Et la période dernière sera le temps où nous entrerons dans la plénitude de ce qui est déjà en germe et où le pas encore disparaîtra. Et là, finalement, nous, à partir de ces données, le professeur Lamothe peut arriver à redécouvrir la notion biblique du millénium, du royaume de Dieu véritable, et puis ensuite de l'éternité, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, et du nouveau ciel et d'une nouvelle terre, qui ne sont pas des réalités au-delà de notre temps, mais qui sont la prolongation à l'infini de ce temps dans lequel nous sommes et dans lequel nous vivons, dans lequel le Seigneur s'est incarné, dans lequel le Seigneur a parlé, dans lequel le Seigneur agit. Alors, voilà donc, si vous voulez, le premier point de la théologie de Kuhlmann. Ce problème du temps. Problème philosophique et théologique du temps. Deuxième point, pour Kuhlmann, cette succession des temps est aussi une succession d'étapes dans l'accomplissement du salut. Et là, il étudie les mots hébreux, moed, qui correspond au grec kairos. Alors il fait une différence entre ce kairos et l'aion, c'est-à-dire à la fois la dispensation, le temps et l'éternité. Et pour lui, tous ces événements du salut ne prennent leur sens, tous ces temps donnés par Dieu ne prennent leur sens qu'à partir de cet événement de l'incarnation, de la mort et de la résurrection du Christ, qui est comme une lumière qui jaillit sur cette ligne du temps et qui éclaire les deux parties de ce temps. À la fois le passé, ce qui est passé par rapport à cet événement-là, là, il reprend la parole du disciple de Malus, n'est-ce pas ? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et puis les événements qui séparent l'intertemps, le temps avant-dernier, et par conséquent aussi le temps de nos vies. Les événements de nos vies prennent leur sens par rapport à ce centre qu'est la croix de Jésus-Christ et qu'est l'événement majeur du salut, ce point, dit-il, éblouissant. Et Kuhlmann réaffirme avec force qu'il ne peut y avoir de salut en dehors de Jésus-Christ. Il a eu lieu, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence pour le chrétien qui découvre Jésus-Christ, mais c'est jamais une évidence pour les théologiens. Dernièrement, j'entendais parler d'un théologien qui, au bout de 40 ans de travail acharné, a découvert que le seul baptême véritable était le baptême des adultes. Vous allez me dire, c'est magnifique. Il a fallu 40 ans pour en arriver là. Évidemment, si chaque vérité doit être redécouverte au prix d'un travail théologique acharné de cette dimension-là, eh bien, Seigneur sera revenu avant, quoi. C'est ça le problème. Et finalement, cette vérité simple qui on trouve à la base de l'Évangile, il n'y a de salut en aucun autre, eh bien, il a fallu des générations et des générations de théologiens pour en arriver justement à l'affirmation des éclairs. Alors, maintenant, quel est le rôle de l'Église dans cette histoire du salut? Parce que finalement, c'est là que Kuhlmann aboutit. Eh bien. Oui, non, maintenant on passe à la tradition, effectivement. L'Église est le centre de ce règne de Dieu, de ce royaume de Dieu, qui est au milieu des hommes, dans ce déjà et dans ce pas encore. Et l'Église est l'endroit où se vit cette tension entre le déjà et le pas encore. Et c'est pourquoi elle peut être, et vous pourrez retrouver ça chez lui, n'est-ce pas, que un royaume qui n'est pas de ce monde. Elle n'est que le temple du Saint-Esprit, d'un esprit qui a déjà transformé par la grâce de Dieu les choses en profondeur, mais l'écorce, l'extérieur des choses n'est pas encore transformée. Ce corps, nous dit Kuhlmann, s'exprime particulièrement dans la Sainte Seine. La Sainte Seine, qui est l'endroit où la souveraineté du Christ devient visible. Parce que elle s'exerce dans l'Église, l'Église étant l'endroit, le seul endroit sur terre où s'exerce la souveraineté du Christ, comme elle s'exercera au dernier jour sur toute la terre, ou du moins comme elle devrait s'exercer. Et c'est pourquoi, dans l'Église, il y a une concentration de la souveraineté du Christ acquise sur la croix, qui se trouve être une souveraineté illimitée, mais dans un point limité. Toujours cette tension entre le déjà et le pas encore. La souveraineté du Christ est totale, du moins elle devrait l'être dans l'Église, mais elle est sur un nombre limité d'hommes, en attendant le jour où cette souveraineté totale s'étendra sur l'ensemble des hommes qui peuplent la surface de la terre. Et là, c'est une très bonne théologie, c'est une vision tout à fait. Évidemment, ce qu'on pourrait demander à Kuhlmann, c'est que dans les faits, ça ne se traduit pas toujours comme ça. Il y a finalement assez peu d'endroits, assez peu de tables de la Sainte Seine où véritablement le Seigneur a une telle autorité illimitée sur ceux qui participent au plein vivant. Que ça précisément implique conversion et sanctification véritable. Et là, Kuhlmann n'a pas poussé assez loin, il est resté dans la vision de l'Église de multitude. Alors, également, l'Église est un témoignage qui signifie que les puissances, eh bien, sont dépouillées de leur autorité. Je reprends le texte des Colossiens, il a dépouillé les autorités, les puissances, les dominations, vous connaissez le texte. Dans ce sens que les pouvoirs invisibles, pour lui, les puissances, ce sont des pouvoirs invisibles auxquels l'homme, parce qu'il est pécheur, parce qu'il a aliéné sa liberté par son péché, crée des puissances de ce type, personnalise, si vous voulez, des réalités qui l'aliènent, qui le dominent, mais qui ne sont en fin de compte que néant. Il prend par exemple l'exemple de l'argent. L'argent apparaît comme une réalité personnifiée dans la vie, le mammon, qui est mis en opposition avec Dieu. Vous ne pouvez servir Dieu que le mammon. Bon, qu'est-ce que c'est l'argent? C'est rien, c'est du néant, c'est du vide. Mais parce que l'homme pécheur se trouve aliéné, prisonnier de cette réalité-là, l'argent devient une puissance, c'est-à-dire une réalité spirituelle qui l'aliène. Ça peut être discutable comme interprétation. Parce que dans la vision biblique, Nous croyons que derrière ces réalités-là, il y a deux véritables et d'authentiques puissances spirituelles qui sont les puissances démoniaques et diaboliques, auxquelles tout le monde ne croit pas. Mais néanmoins, il est certain que, dans la mesure où l'homme se rend esclave de ces réalités-là, il donne aux puissances diaboliques qui les manipulent une puissance qu'elles n'auraient pas autrement. Et en cela, l'approche de Goodman est exacte. Il n'y a pas la nuance que nous faisons. Or, dans l'Église, justement, l'Église est le lieu où ces puissances-là n'ont plus de puissance, parce que c'est Jésus qui règne. Là, évidemment, il est certain que Kuhlmann voit l'Église, mais l'Église idéale. Et que dans la réalité, bien entendu, notamment au niveau des Églises multitudinistes, on en est très loin. Alors, les puissances reçoivent dans l'Église le témoignage que leur rôle a pris fin. Il y a substitution d'une autre puissance à la leur, la puissance de Jésus-Christ. Ce qui fait que les puissances sont exclues et une humanité nouvelle se trouve être substituée à l'humanité ancienne. Christ est le départ de sa création nouvelle. Puis ensuite, après Christ, il y a les apôtres, puis l'Église, et enfin la nouvelle création tout entière, le nouveau ciel et la nouvelle terre qui paraîtront dériger. Voilà les différentes étapes de l'histoire du salut. Donc l'existence de l'Église, dit Kuhlmann, est décisive pour l'humanité tout entière. Alors à partir de là, il étudie les rapports entre l'Église et l'État. L'État est serviteur du Christ, mais il est soumis aux puissances. Et quand elle sort de ce rôle-là, quand il sort de ce rôle-là, l'État, il devient la bête qu'il faut combattre. L'Église, au contraire, est servante du Seigneur, mais elle n'est plus soumise aux puissances, en opposition à ce qui se passe pour l'État. Et son but est d'annoncer la bonne nouvelle à toute création, à tout assujettir au Christ, même si cet appel se trouve être refusé temporairement encore. D'où la nécessité d'une prédication missionnaire universelle, vous allez me dire. C'est évident. Mais pour les théologiens, ce n'est pas forcément évident. Et c'est là que intervient un événement. Elle est pour les hommes de ce temps un événement historique et salutaire. Alors là se pose le rôle de la primauté de Pierre, sur lequel Kuhlmann s'est penché, nous l'avons dit tout à l'heure. Et Kuhlmann lui pose effectivement qu'il y a une primauté de Pierre. Mais ce qu'il conteste, c'est que cette primauté soit transmissible à des successeurs éventuels de Pierre. Pour lui, Pierre a été appelé par le Seigneur pour être celui qui fonderait l'Église, d'une certaine manière, par sa parole, par sa prédication. Et c'est dans cela que Kuhlmann définit le pouvoir d'Église, cher aux catholiques. Mais il pose également que le rôle de Pierre s'achève à partir du moment où cette fondation est faite, et qu'alors la primauté de Pierre disparaît. Je pense que cette interprétation est contestable. Personnellement, je n'irai pas aussi loin que Kuhlmann dans ce domaine. Je ne crois pas qu'il y ait une primauté de Pierre, parce que ce n'est pas l'esprit de l'Évangile ni la lettre ou que Dieu confie des tâches à un homme seul. Jamais il n'y a l'homme seul dans la Bible. Il y a toujours, n'est-ce pas, Jésus envoyé ses disciples de par deux. Et s'il est vrai, comme le dit Kuhlmann avec raison, qu'il y a dans le groupe des disciples un cercle large des 12 et un cercle restreint des 3, Pierre, Jacques et Jean, il nous semble que dans les grandes décisions, dans les grands moments, les 3 sont toujours ensemble. et que parmi ces trois-là, Pierre n'a pas plus de préscience que les autres. Car il y a des moments où, c'est vrai, Pierre est mis en évidence, mais il y a des moments où Jean aussi est mis en évidence. Jacques apparaît moins. Mais en tout cas, Pierre et Jean sont présentés par les textes bibliques sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Et il y a par conséquent une direction collégiale de l'Église qui apparaît toujours, même dès les origines, même dans cette question de la primauté. Et contrairement à ce qu'affirme Pullman, nous dirions que la primauté de Pierre est une primauté collégiale avec les autres. C'est vrai qu'il y a une certaine primauté chez Troyes, qui était plus proche de Jésus, dans certains domaines. Mais Pierre n'est pas supérieur aux autres. Troisième point, la tradition. Alors là, précisément, Kuhlmann a repris ce que nos braves amis nous disaient l'autre jour, à savoir que le dialogue entre protestants et catholiques insiste depuis un temps sur le fait que la Bible a d'abord été tradition orale. Avant d'être écrite, elle a été l'objet d'une transmission orale, donc d'une tradition, puisque le mot tradere signifie transmettre. Les catholiques tirent parti de ce fait indiscutable pour affirmer que, puisque il y a eu une tradition qui a précédé l'écriture, et qui est devenue normative, il doit bien aussi y avoir une tradition qui, bien que n'étant pas mise par écrit, continue à être normative pour l'Église. Et aujourd'hui, cette argumentation catholique a fait son chemin dans bien des milieux protestants, qui s'interrogent effectivement sur la valeur de ce que nous appellerions, et de ce qu'ils appellent plutôt la tradition biblique. Alors, Kuhlmann a travaillé sur ces données. Et il a d'abord noté ceci. C'est qu'il y a une relation étroite entre ce qu'il appelle la tradition, en grec, paradosis, et la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Je trouve que c'est absolument génial comme découverte. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu de par la victoire qu'il a remportée sur les puissances par sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire qu'il exerce toute l'autorité du Seigneur. Et c'est au nom de cette autorité qu'il a reçu du Père, qu'il transmet aux hommes sa parole. Et là, il reprend Éphésiens 4. Étant monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et c'est en cela, dit Kuhlmann, que l'enseignement de Jésus, la parole de Jésus, est infiniment supérieur à deux choses. Premièrement, à l'enseignement des pharisiens, à la tradition des pharisiens, car il y avait aussi une tradition des pharisiens. Mais précisément le fait que les apôtres aient vu Jésus remonter à la droite du Père, s'asseoir à la droite de Dieu, est pour eux la preuve que Dieu avalise, authentifie la tradition de Jésus, c'est-à-dire ce que Jésus a enseigné et transmis. Et précisément avant cette ascension, avant cet acte d'élévation, de glorification dont les apôtres sont témoins et qui leur donne la certitude que l'enseignement de Jésus est bien parole de Dieu, Jésus leur dit: allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai transmis, tout ce qui a été l'objet de tradition de ma bouche. Qui dit cela, dit Kuhlmann, le Christ glorifié. Enseignez-le à garder tout ce que je vous ai transmis. Et précisément, Jésus bouscule cette tradition des pharisiens, cette tradition des anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Donc il y a là une tradition, c'est vrai, mais une tradition d'une nature infiniment supérieure à tout ce qu'il y a eu jusqu'alors. Maintenant, un deuxième élément intéressant. Qui sont les dépositaires de cette tradition? Les apôtres. Et c'est le rôle d'apôtre, justement, d'être les dépositaires de cette tradition-là. C'est parce qu'ils ont cette vision du Seigneur glorifié que la parole qu'ils ont reçue de Jésus est pour les apôtres une parole d'autorité. Et eux sont les garants de l'authenticité de cette révélation devant le peuple. Et c'est exactement ce que dit Pierre le jour de la Pentecôte, quand il dit « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé à la droite de Dieu, le Seigneur l'a élevé donc à sa droite, comme nous en sommes témoins. Nous sommes les témoins de ces choses. » Et quand il choisit le 12e apôtre qui va remplacer Judas, c'est pour qu'il soit avec nous, témoins, diront les apôtres, devant le peuple de l'authenticité des événements qui se sont accomplis depuis le jour où Jean a commencé à prêcher, à baptiser, jusqu'à ce temps où Jésus a donc été crucifié et où il est ressuscité. Et en cela, dit Pullman, l'apostolat des 12 est un élément absolument unique. Les apôtres sont les témoins et les garants de la tradition, avec un grand T. La tradition, c'est-à-dire la transmission des paroles du Christ pour l'Église de tous les lieux et pour l'Église de tous les temps. Ils sont ceux qui, à ce titre-là, sont chargés de conserver ces paroles du Christ, de les transmettre, comme le Christ leur a demandé, enseigner-les à toutes les nations. Et à la lumière de ces événements, à la lumière de cette parole, d'interpréter cette ligne du temps. C'est-à-dire de dire, eh bien voilà, comme Jésus l'avait dit, ou comme Pierre le disait avant, ceci, c'est ce qui a été écrit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, si vous voulez réinterpréter l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance dans un sens christologique, voilà ce qu'est le rôle des 12. Et par conséquent, c'est ce que nous faisons dans les Épîtres. C'est exactement ce qu'ils font dans les Épîtres. Et ce faisant, ils couvrent de leur autorité apostolique les écrits qui vont devenir le canon de l'Écriture sainte, donc la tradition. Et cette tradition va devenir normative, n'est-ce pas, pour toutes les églises. Et c'est pourquoi, nous dit Pullman, l'église primitive, l'église des apôtres, le temps apostolique, a un caractère unique et normatif pour l'église tout entière, de tous les lieux et de tous les temps. Et seule l'église primitive peut prétendre à ce caractère normatif. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Pullman appelle la tradition apostolique. Après les apôtres, naît une autre tradition, que Pullman appelle la tradition ecclésiastique. Les apôtres, finalement, ont eu, sinon à écrire eux-mêmes cette tradition qu'ils avaient reçue du Christ, du moins à veiller et à authentifier de leur autorité apostolique l'authenticité des écrits qui ont été peut-être accomplis par d'autres. Ça, c'est possible. Par exemple, Marc écrivant sous l'autorité de Pierre, Luc sous l'autorité de Paul, etc. Ça. Mais en tout cas, les apôtres avaient donné leur approbation à ces écrits-là. Et pourquoi cela et pas d'autres? Car à l'époque apostolique, il y avait des évangiles apocryphes qui ont été écrits. Parce que précisément, ces écrits-là n'ont pas été revêtus d'autorité apostolique. Et ceci, dit Pullman, implique l'inspiration. D'une part, l'inspiration de ceux qui ont écrit, mais inspiration aussi des apôtres qui ont su reconnaître ce qui était conforme à la tradition qu'ils avaient reçue du Christ, justement avec le Messie, avec lequel ils avaient vécu, et avec les autres écrits qui, eux, n'étaient pas l'objet de cette inspiration-là. En posant qu'il y a deux sources de la révélation, la tradition apostolique et la tradition ecclésiastique, dit Kuhlmann, le catholicisme dévalorise l'apostolat des douze. Puisque finalement, il met la tradition, il met la tradition qui vient ensuite sur le même plan. Il y a donc méconnaissance du caractère unique de l'apostolat des douze. Est-ce à dire que la tradition ecclésiastique ultérieure soit sans valeur? Non, dit Kuhlmann, car quelle est cette tradition ecclésiastique? Eh bien, c'est la manière dont, à une époque donnée, l'Église de cette époque-là, l'Église d'un certain temps, d'une certaine époque, a compris l'Écriture. C'est la manière dont elle l'a appliquée dans une situation particulière qui était la sienne, pour faire face à certains problèmes. Parce qu'effectivement, l'Église, à toutes les époques, a pour devoir d'interpréter cette tradition apostolique pour l'appliquer à son temps. Et en ceci se crée la tradition ecclésiastique, ce que les catholiques appellent la tradition. Seulement, nous dit Kuhlmann, à l'inverse de ce qui se passe pour la tradition apostolique, qui est valable pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps, la tradition ecclésiastique est valable uniquement pour l'Église d'un temps. Et précisément, l'Église qui vient après, l'Église d'un autre temps, se doit de reprendre ces choses. Et elle a la liberté de l'accepter ou de le rejeter, en fonction des situations nouvelles qui sont les siennes. Et en fonction, il aurait pu ajouter, de l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, la tradition ecclésiastique n'est pas dépourvue de valeur pour l'Église, mais c'est une série de guides, de points de repère, et non pas des normes et des critères absolus, comme l'est la tradition canonique, la tradition apostolique. Il y avait en effet besoin d'une norme définitive pour l'Église. Et l'Église du IIe siècle a tellement bien senti qu'elle a elle-même posé la réalité d'un canon, c'est-à-dire d'une norme qui lui était extérieure, qui était écrite, et à la lumière de laquelle elle était amenée à se juger elle-même. Précisément, la doctrine catholique de la tradition face à l'Écriture fait fi de cet acte d'humilité fut celui de l'Église du IIe siècle, pour faire de l'Église la maîtresse et la propriétaire de l'Écriture sainte. À la fin du IIe siècle, à la fin du Ier siècle plutôt, de Kuhlmann, l'Église a traversé une ligne de séparation entre le temps des apôtres et ce qu'il appelle le temps d'Église. En posant la réalité d'un canon, qui ne fut définitivement fixé que quelques siècles plus tard. Ça, les problèmes qui se sont posés ensuite pour la définition des frontières exactes du canon, c'est un autre problème. Mais finalement, secondaire, l'Église du IIe siècle a posé la réalité d'un canon, de cette norme extérieure à elle. Ça veut dire que l'Église se reconnaissait comme n'étant pas infaillible. Elle ne l'est, dit Kuhlmann, que lorsque elle est conforme à la norme infaillible de l'Écriture sainte. Quand elle est orientée dans l'optique du Nouveau Testament, quand elle se situe dans cette ligne du temps, à la lumière de la croix, et l'incarnation devient alors la règle d'interprétation de l'Écriture sainte. Et à ce moment-là, l'Église est infaillible. À ce niveau-là, le seul point de la tradition que Kuhlmann considère comme presque sur le même plan d'Écriture, ce sont les credos anciens. Les anciennes professions de foi, c'est-à-dire les textes les plus anciens, qui sont finalement des formulations dogmatiques qui sont directement basées sur l'écriture. Je pense qu'il va un peu loin à ce niveau-là, mais il est certain qu'on doit accorder à ces formulations anciennes de la foi une grande valeur, parce qu'en tout cas, elles nous rapprochent de la manière dont les chrétiens ont compris l'écriture sainte, et même si nous n'avons pas à les accepter telles quelles, en tout cas, nous devons les examiner, je pense, avec une grande attention, sans leur accorder toutefois la même valeur qu'à l'écriture sainte. Alors je crois que c'est tout à fait intéressant comme approche. La seule critique qu'on pourrait faire, en dehors de celle que je viens de faire là, à la doctrine de Kuhlmann, c'est peut-être malgré tout de faire la part encore trop belle à la doctrine, à la tradition catholique. En disant la tradition catholique, c'est une manière pour l'Église de vivre l'Évangile dans un temps donné, je dirais que c'est aussi une manière de se débarrasser de l'Évangile dans un temps donné. Parce qu'on pourrait faire la même critique à la tradition catholique que celle que Jésus faisait aux pharisiens de son temps. Vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Et là, je pense que Kuhlmann est trop gentil par rapport à l'Église catholique, même si effectivement il place une boundary absolument imparable. Encore la semaine dernière, bien que je n'avais pas repris tout ça, certain que si j'avais eu tout ça en tête, je pourrais être encore beaucoup plus incisif que ce que j'ai été. Voilà, donc en gros, on voit donc en gros cette doctrine de Kuhlmann. Il insiste également, pour terminer, sur l'importance de la résurrection, qui est aussi quelque chose qui a été très combattu ces derniers temps, ces dernières années. Sur la notion d'être en Christ, il a beaucoup écrit là-dessus. C'est l'expression qu'on trouve chez saint Paul en particulier. Et ensuite sur le baptême et la Sainte Cène, évidemment, dans une optique, alors là, que nous ne pouvons pas accepter, puisqu'il justifie le baptême des enfants, etc. Voilà en gros, si vous voulez, un des principaux théologiens de ce temps, des plus intéressants. Le seul, à mon avis, qui vaille vraiment la peine d'étudier. Est-ce que vous avez quelques questions à poser sur cette théologie de Kuhlmann? Oui, il est toujours vivant. Hein. Il est âgé maintenant, mais toujours vivant. Du moins, ma connaissance. Bon, eh bien...